Odile Descol à portée de notes. Bonjour à tous, bonjour à portée de notes. Il ne serait pas juste de dire qu'il était beau. Peu de Bach étaient de beaux hommes. Mais toute la force de son esprit se reflétait dans ses traits. Le front frappé par sa puissance et d'épais sourcils froncés par un effort constant de concentration donnaient à ses yeux une profondeur singulière. Je dirais même que ses yeux écoutaient et avaient par moments une lueur mystique. Sa bouche, large et mobile, exprimait la générosité. Les coins de ses lèvres souriaient. C'était un merveilleux mélange de grandeur et d'humanité qui rayonnait en lui. Mais qui parle ainsi ? Il s'agit d'Agna Magdalena Bach, la seconde épouse de Jean-Sébastien Bach. C'est sur cet extrait d'un concerto brandebourgeois que Bach écrivit à la mémoire et en hommage de la musique de Vivaldi qu'il admirait particulièrement, que je m'en vais vous raconter la vie de Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach naquit le 21 mars 1685 à Eisenach en Allemagne, dans une famille de musiciens. Il commença ses premières études auprès de son père, qu'il va malheureusement perdre lorsqu'il a 10 ans. Comme c'est un bon écolier, un bon latiniste, l'enfant se plie aisément aux disciplines, bien qu'il ait eu une force de véhémence naturelle, dirons-nous, et un franc-parler qui ne le quitta jamais. Il pouvait même avoir de franches colères. Orphelin, il lui fallait un tuteur. Ce fut son frère aîné, Johann Christoph, chez qui il vécut 5 ans, contribuant aux frais du ménage, en étant organiste et en chantant dans les chœurs, car il avait une très jolie voix de soprano. Il devint expert en latin et en théologie luthérienne, qui deviendra par la suite presque sa marotte. Il dévore toute la musique, n'hésitant pas à la recopier, la nuit, au clair de lune. Il devint ensuite choriste au Gymnasium, Gymnasium veut dire collège en allemand, au collège de Lunenburg. N'ayant pas à son grand regret les moyens matériels d'entrer à l'université, il va décider d'entrer comme violoniste dans l'orchestre du duc de Weimar. Et là, on peut dire que l'enfance est complètement terminée. Il se fait nommer par le même temps organiste dans la petite ville d'Arnstadt. Nous sommes en 1704 et il va y rester 4 ans. Alors, très vite, son caractère ressort. Il ne supporte plus le conseil municipal qui l'accuse d'une absence interminable. Enfin, il faut dire que le conseil municipal n'avait pas tort. En effet, Jean-Sébastien Bach était allé à pied, à Lübeck, entendre l'illustre Buxtehude jouer de l'orgue. Et en fait, il avait complètement oublié le temps, lui qui ne cessera toute sa vie que de le compter. Au lieu de rester 4 semaines, comme ça avait été prévu, il va rester 4 mois, oubliant même sa fiancée, Maria Barbara. Alors effectivement, on peut comprendre que le conseil municipal n'ait pas été très content. On avait même chuchoté que Buxtehude avait voulu lui donner la main de sa fille, au demeurant fort disgracieuse. D'ailleurs, c'est la même mésaventure qui va arriver à Hindel. Buxtehude voulait caser sa fille. Il n'y est pas arrivé. Donc, le conseil municipal d'Arnstadt était aussi excédé par sa réputation de batailleur et d'intransigeant. Ce qui fait que Bach quitte Arnstadt pour Mühlhausen en 1707. Et c'est là qu'il va se marier avec Maria Barbara, qui n'est autre que sa cousine, qui va quand même lui donner 7 enfants. Il faut savoir que non seulement Jean-Sébastien Bach a beaucoup écrit sur la musique, mais il a eu beaucoup d'enfants, puisqu'on en compte 20. 20 enfants de 2 femmes différentes. Et donc, en 1707, il se marie avec Maria Barbara et il va partir et retourner à Weimar en 1708, où il va rester 9 ans. Jean-Sébastien est à Weimar et il écrit là des cantates italiennes. Il est devenu un organiste légendaire et renommé dans toute l'Allemagne. Du coup, il prend ombrage de ce qu'à la mort de son supérieur hiérarchique, le Kapellmeister Drese, on fit appel au fils de celui-ci, médiocrement doué, pour assumer cette charge et non pas à lui. En fait, le duc de Weimar souhaitait ainsi le punir des relations qu'il entretenait avec son neveu Ernst Auguste, dont il n'aimait pas les idées, et lui interdisant même de le voir. Apprenant cela, Bach va se rebeller et organiser un concert d'anniversaire somptueux au neveu. Bach va partir ainsi pour rejoindre le neveu, mais le duc de Weimar s'oppose à son départ et va jusqu'à le faire mettre en prison durant tout un mois en 1717. ce qui était sans compter la hargne et la détermination de Jean-Sébastien, qui partit finalement pour la cour de Cotton, où il vécut un des séjours les plus heureux. Sur la gaieté de cette sonate en trio, en mi bémol majeur, que nous continuons la vie de Jean-Sébastien Bach, qui passe des heures heureuses à Cotton. C'est d'ailleurs à Cotton qu'il compose tout un groupe de pièces appelées le Klavierbüchlein, c'est-à-dire le clavecin bien tempéré, pour la formation de son fils aîné, Wilhelm Friedmann. Cette œuvre reste une magnifique matériel pédagogique. Il va aussi composer à Cotton les concertos brandebourgeois, dont vous avez écouté tout à l'heure un extrait. En écoutant cet art de la fugue et ce contrepoint, eh bien le bonheur de Jean-Sébastien Bach à Cotton va aussi s'assombrir. Nous sommes en 1720 et c'est à cette époque que sa première femme va mourir en son absence. Quand il va rentrer, sa femme sera déjà enterrée. Et alors pour un homme fort occupé tel que Jean-Sébastien Bach, il ne pouvait être question une seule minute de laisser trop longtemps ses enfants seuls. De plus, il ne voulait pas d'un déséquilibre engendré par trop de solitude. Alors, eh bien, quelque temps plus tard, il va remarquer une jeune soprano, magnifique, ravissante, de 20 ans, qui s'appelle Agna Magdalena Wilken. Et il va l'épouser en 1721. Il a 36 ans, elle en a 20. Elle lui donnera 13 enfants. Ils partent en 1721, l'année du mariage, à Leipzig, où il va rester 25 ans. C'est dans cette ville qu'il composa la plus grande quantité de ses œuvres, dont les fameuses variations Goldberg. Pourquoi on les appelle les variations Goldberg ? C'est tout simplement qu'il va dédicacer cette œuvre à une femme, Madame Goldberg, qui était insomniaque la nuit et qui jouait du clavecin. Donc c'est pour elle qu'il va créer toutes ces variations. Il va aussi apporter en cadeau à cette ville de Leipzig qu'il reçoit, la passion selon Saint Jean. Ce furent aussi des années assez pénibles. On peut bien dire que ses disputes avec ses supérieurs sont aussi nombreuses que ses œuvres, ou que le nombre important d'enfants que Maria Magdalena va lui donner, donc 13 enfants. Dès le début, eh bien, il faut dire qu'à Leipzig, on n'avait pas voulu de Jean-Sébastien Bach, on espérait Telemann. Bach ne fut accepté là que comme, dirons-nous, pis-aller. D'ailleurs, le conseiller de la culture Platz avait dit de lui « Bah, écoutez, puisque nous n'avons pu obtenir le meilleur, nous devrons nous contenter d'un médiocre. » Mon Dieu, quel médiocre! Quant à l'école locale, qui s'appelle Saint-Thomas, dont il avait hérité, eh bien, Jean-Sébastien Bach hérite d'un local vétuste, rempli d'élèves mal nourris et peu enclins à apprendre. Un extrait de la cantate BWV 201, « Vite, vite, vent turbulent », qui exprime vraiment la turbulence des enfants indisciplinés, très peu tentés par la musique de Bach. Et pourtant, c'est à cet endroit que Bach va créer ses plus beaux chefs-d'œuvre. Les élèves vont finir par s'enthousiasmer pour la musique de ce génie, alors que l'auditoire des officiels pouvait aller jusqu'à dire, parlant de la Passion selon saint Matthieu, qu'elle avait des allures d'opéra, et Dieu sait si l'opéra était mal vu dans le milieu calviniste. Bach voyage un peu. Il alla une fois à Berlin pour rencontrer le grand Frédéric le Grand. Là, il va être reçu avec un accueil mais magistral. Frédéric le Grand va lui faire visiter toutes les pièces où il a des clavecins et il donne un air à Jean-Sébastien Bach, qui va faire des improvisations dessus. En rentrant chez lui, Jean-Sébastien Bach va écrire toutes ces improvisations et va lui envoyer. C'est ce qui deviendra l'offrande musicale. Durant l'hiver 1749-1750, Bach va être opéré des yeux. Car à cause de sa myopie, il était devenu quasiment aveugle. L'opération va échouer et il va devenir tout à fait aveugle. Le 28 juillet, il va recouvrir la vue pour un quart d'heure, une demi-heure, et il va rendre son dernier soupir en dictant un dernier choral. Devant ton trône, mon Dieu, je vais comparaître moi-même tout entier. Je suis dans ta main. Tourne vers moi ta face bienveillante et ne me retire pas ta grâce. Accorde à ma fin d'être digne et que je m'éveille pour contempler ta face, pour te connaître éternellement. Amen. Voilà très succinctement la vie de Jean-Sébastien Bach, surnommé le père de la musique, et dont tous les musiciens se sont inspirés. Pas un compositeur qui ne vous dira que Jean-Sébastien Bach est un passage incontournable dans la musique. Je vous dis à très vite pour une autre émission, mais surtout à très vite à portée de notes.
Oh,